approche. Il est 6h10 sur Europe 1. Bienvenue à tous et bon petit déj. Vous nous rejoignez pour le pressing, votre revue de presse décalée avec Dimitri Vernet dans ce studio. Bonjour Dimitri.
Bonjour Alexandre, bonjour Omblin.
Bonjour.
Qu'avez-vous lu dans les quotidiens?
Ça va sentir bon dans le studio. Je vous parle parfum ce matin.
Parfum.
Oui, exactement. Bon. Et plus précisément du retour en grâce de la haute parfumerie.
De la haute parfumerie, celle qui vide le compte en banque.
Exactement.
L'embrasement de la torche olympique, ça se passe ce matin dans le petit village d'Olympie en Grèce.
Le risque d'escalade au Proche-Orient, bien présent dans vos journaux également ce matin, et les questions après l'attaque de l'Iran contre Israël. Alors d'abord, est-ce qu'il y aura, oui ou non, une riposte d'Israël? Oui, si l'on en croit le chef de l'armée israélienne. Quel type de riposte? Alors là, on ne sait pas encore. Le Parisien regarde ce matin justement les différents scénarios possibles. Il y a autour en fait de Benjamin Netanyahou les partisans de la ligne dure d'un côté, et puis de l'autre, ceux qui plaident encore pour la désescalade.
Oui, tout le monde n'est pas d'accord sur le type de réponse.
Il y a un petit peu,
apporter.
Effectivement, dans le cabinet de guerre du Premier ministre israélien, de camps comme ça. Alors vous avez le ministre de la Sécurité nationale qui réclame, lui, une attaque écrasante, ce sont ces mots, hein, contre l'Iran. La ligne dure, donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, par exemple, frapper les installations nucléaires iraniennes. Alors, précision, on rappelle que l'Iran n'a pas encore la bombe atomique, mais ils ont un programme. Israël, au contraire, est une puissance nucléaire. Alors là, pour Israël, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire aller frapper des cibles très profondes, à des dizaines de mètres sous le sol. Ce sont des usines en Iran qui sont enfouies sous terre. Il y a une autre option qui consisterait pour Israël à frapper des installations de drones iraniens, de ceux qui ont attaqué le week-end dernier Israël. Là, c'est un petit peu dent pour dent, hein, c'est la frappe miroir. Mais toujours effectivement dans cette hypothèse-là, dans un scénario d'escalade.
Oui, alors vous disiez qu'il y a aussi en Israël un camp qui freine pour la désescalade.
Alors freiner, oui, mais toujours dans la riposte, effectivement. Alors là, ça serait possible avec un scénario entre guillemets à minima. Ça consisterait à faire ce qu'Israël fait déjà régulièrement, ce qui est donc de frapper les organisations satellites de l'Iran qui ne sont pas sur son territoire. Donc c'est quoi? C'est le Hezbollah au Liban, ce sont les rebelles houthis au Yémen. Ça ne changerait pas a priori l'équation actuelle entre Israël et l'Iran. Alors il reste aussi à savoir à quand la riposte, hein, quelle riposte, mais quand, hein. Là, ce serait, est-ce que ce sera pour bientôt?
Oui.
Est-ce que ce sera pour plus tard? Là, Israël pourrait jouer l'effet de surprise sans prévenir l'ennemi, hein, comme l'a fait l'Iran avant d'attaquer, qui avait passé un petit peu des coups de fil aux États-Unis.
Oui.
Attention, on va faire ci. Le risque d'escalade, donc, il est là aussi, hein, sur les dégâts qu'on veut éviter ou qu'on veut au contraire provoquer en tenant secrète le timing, si vous voulez, le calendrier de la riposte. Omblin.
Oui. Alors, les Jeux Olympiques de Paris, c'est dans 101 jours exactement.
101 jours.
Vous savez quand on...
Bientôt le chiffre rond.
Oui, c'est ça. Demain.
Demain, mais du coup, c'est vrai.
C'est demain.
C'est vrai.
Le compte est bon. Vous savez quand on sent vraiment que l'échéance approche, quand la torche olympique est allumée. Allez, voilà, on y est aujourd'hui. La flamme jaillira ce matin. Le journal Aujourd'hui en France est sur place en Grèce pour nous raconter comment ça va se passer. Alors, comme le veut le rituel chargé d'histoire, direction le petit village d'Olympie, une cité jadis perdue au milieu du Péloponnèse où se déroulaient les Jeux antiques dès 776 avant notre ère, des Jeux relancés par Pierre de Coubertin en 1896.
Bon, est-ce qu'on allume la flamme depuis 1896?
Eh bien non, figurez-vous qu'on allume la flamme, Dimitri, depuis les Jeux de Berlin, donc depuis 1936.
D'accord. Alors comment ça se déroule, je sais pas comment on dit, l'allumage, l'embrasement de la torche olympique, l'embrasement, allez.
Eh bien la grande prêtresse se présente sur l'autel du temple d'Héra, on aimerait tellement y être. La flamme est allumée grâce au rayon du soleil capté au centre d'un miroir parabolique pour garantir sa pureté. La cérémonie est animée par Nikos Aliagas, voilà, tout un symbole pour notre animateur star franco-grec. La torche sera saisie par un premier relayeur grec, le champion olympique d'aviron à Tokyo, Stéphanos Douskos, avant de passer entre les mains de notre championne, la nageuse Laure Manoudou. Voilà, la flamme va ensuite traverser toute la Grèce avant d'embarquer le week-end prochain sur le Belém, direction la France, le 8 mai. Un périple raconté dans le quotidien Aujourd'hui en France ce matin.
Donc ce que vous nous décrivez, c'est un rituel qui se donne des airs comme ça de cérémonial millénaire.
Exactement.
Alors qu'en réalité
1936.
Voilà, on allume la flamme depuis 1936.
Et en fait, en 1936, on voulait recréer cette époque antique grecque.
Oui, cette sensation.
Ce symbole grec.
De fait, les racines premières des Jeux Olympiques, elles remontent bien là,
Bien sûr.
Et Olympie est le berceau des Jeux Olympiques.
Voilà, il y a plus de 500 ans.
Et c'est là-bas que ça se passe aujourd'hui.
Exactement.
Dimitri, de votre côté, c'est un article du Figaro qui vous a intéressé ce matin.
Vous avez le nez fin, Alexandre. Un article nous parlant du retour de la belle parfumerie. Le quotidien l'écrit. Après plus de 40 ans de domination des parfums de masse, des parfums marketing, la parfumerie de niche fait son grand retour, impose ses codes, remettant l'olfaction au cœur de l'industrie.
Et donc, je comprends pas vraiment, pardon, excuse-moi, Dimitri, quelle est la différence entre parfum de masse et parfum de niche? Je vous ai posé la question d'ailleurs avant d'entrer dans ce studio. Bon,
vous allez voir, c'est assez simple. Quand on parle de parfum de masse, on parle, vous savez, des fragrances destinées au grand public, c'est-à-dire des parfums produits en grande quantité, vendus dans des magasins style Mariono, Sephora, d'accord, Une Heure pour Soi.
En gros, qu'on risque de retrouver chez son voisin de tramway ou de métro.
Exactement.
Mais des grandes marques et des grandes maisons quand même.
Ça peut être des grandes maisons.
Des grandes maisons, bien sûr.
Les parfums de niche, c'est complètement différent. En fait, ils sont créés par des artisans talentueux, vendus dans des magasins de parfumerie de prestige.
D'accord.
Cette fois-ci, ce sont des parfums vraiment luxueux, qui coûtent très très cher. Pour vous donner un petit ordre d'idée, souvent pour 100 ml, il faut débourser plus de 300 euros pour un parfum. Donc ça fait beaucoup.
Effectivement, j'imagine que c'est la facture pour se distinguer masse, peut-être, entre guillemets. Bon, il y a de plus en plus de clients qui sont friands de ces parfums très chers, Dimitri.
Et les jeunes en particulier, les 15-25 ans qui en raffolent, un directeur marketing d'une grande maison de parfumerie l'explique dans cet article. La Gen Z, pour qui l'affirmation de soi est une priorité.
Gen Z, vous nous rappelez ?
Donc les moins de 25
ans. Après
95. Ouais. Voilà. Donc c'était l'affirmation de soi, c'est une priorité. Oui. Donc forcément, ils se sont retrouvés dans ces parfums de niche. Et disons-le clairement, en fait, c'est devenu en quelque sorte pour eux le nouveau standard. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Notamment si vous faites partie, comme moi, des gens qui achètent des parfums dits classiques. Car en fait, la montée de cette parfumerie de luxe, elle oblige les marques de parfums de parfums classiques à s'adapter, à se singulariser et proposer ainsi des parfums qui se démarquent. Donc voilà, c'est quand même une bonne chose. Tous les consommateurs en profitent.
Donc ça fait bouger le milieu de la parfumerie, en tout
exactement
cas. Merci Dimitri, c'était votre pressing parfumé ce matin, chers auditeurs. Voyez votre revue de presse décalée sur Europe.